En général, Mazarin s'était montré facile, avec les frondeurs repentis. Le prince de Conti avait été fêté au Louvre dès 1654. Il est vrai qu'il acceptait d'épouser une nièce de Mazarin, Anne-Marie Martinozzi, condition qui lui fit du tort dans le public.
« Ce mariage,
écrivait André d'Ormesson,
est une des plus grandes marques de l'inconstance des affaires humaines et de la légèreté des esprits français que l'on ait vu de notre temps. »
Après Conti, un autre prince, monsieur en personne, tout confit qu'il fut en paresse et en dévotion, se remua pour revenir à la cour. L'accord se conclut à des conditions qui n'avaient rien de dur ou d'inusité. Pour un Gaston d'Orléans, il ne lui en coûta que d'abandonner quelques derniers amis. À la vérité, il reçut peu de choses en échange. Lorsqu'il venait saluer le roi, chacun lui faisait sentir qu'il était déjà
« au rang des morts »,
selon l'expression de Madame de Motteville. L'humeur qu'il en éprouvait le faisait repartir au plus vite, pour Blois, et c'était ce que l'on voulait. Son accommodement profita surtout à ses gens d'affaires. Ils en eurent plus d'autorité pour harceler Mademoiselle et ne lui laissèrent ni trêve ni repos. Leur but était de lui faire exécuter la transaction signée à Orléans. Mais elle leur tenait tête, son conseil et son secrétaire. Elle suffisait seule à un labeur énorme dont ses comptes de tutelle n'étaient qu'un chapitre et non le plus considérable. L'administration de ces immenses domaines était retombée tout entière sur elle. C'était à présent Mademoiselle qui ouvrait les monceaux de lettres provenant de régisseurs, contrôleurs, avocats, gardes forestiers, fermiers, simples sujets, bref de quiconque dans les principautés de Dombes ou de La Roche-sur-Yon, dans les duchés de Montpensier ou de Châtellerault, avait un compte à régler avec elle, un ordre à lui demander ou une réclamation à lui soumettre. C'était Mademoiselle qui répondait. C'était elle qui suivait les nombreux procès nécessités par l'incurie de la gestion paternelle. Ce fut elle qui termina la grosse affaire de Champigny, dont le retentissement fut grand à cause du rang des parties et des souvenirs réveillés par les plaidoyers. Champigny était une terre de rapport située en Touraine et ayant appartenu à Mademoiselle. Richelieu l'en avait dépouillée, alors qu'elle n'était qu'une enfant, par un échange forcé avec le château de Bois-le-Vicomte, aux environs de Meaux. Devenue maîtresse de sa fortune, elle assigna les héritiers du cardinal en restitution. Et elle venait de gagner son procès quand monsieur lui ôta Préfontaine. L'arrêt qui lui rendait Champigny lui allouait, en outre, des indemnités à fixer, à dire d'experts, pour des bâtiments abattus et des bois dégradés. Mademoiselle estimait que cela pouvait monter assez haut et elle savait que, chez son père, où l'on s'imaginait l'avoir mise dans un cruel embarras, on répétait à tout venant qu'elle n'obtiendrait à peu près rien. Ses discours la piquaient au jeu. Le moment venu, Mademoiselle se transporta à Champigny et y fut du matin au soir, pendant plusieurs semaines, sur les talons des 18 experts, procureurs, avocats, gentilshommes, maçons, charpentiers et marchands de bois désignés pour évaluer les dommages. Elle eut de longues explications avec le bonhomme Madeleine, conseiller au Parlement et chargé de diriger l'expertise qui restait confondue de tout ce que savait cette princesse. Il lui disait
« Vous savez notre métier comme nous et vous parlez de vos affaires comme un avocat. »
Les opérations terminées, mademoiselle eut le plaisir de pouvoir écrire à Blois que
« Cette affaire chimérique,
dont elle ne devait avoir que 50 000 francs, se montait à 555 000. » Elle sortit moins glorieusement de son litige avec son père. Mazarin avait rendu à mademoiselle le mauvais service de faire évoquer son affaire par le conseil du roi. Un arrêt confirmant la décision de madame de Guise, il n'eut plus qu'à obéir. Mademoiselle signa en pleurant
furieusement
l'acte qui la spoliait et se soumit avec désespoir à partir pour Blois. Elle allait revoir son père après avoir eu l'esprit traversé par la pensée qu'il pourrait bien la faire assassiner. On racontait qu'il en avait été question à Blois.
« Dans les rêveries mélancoliques, je songeais que son Altesse royale était fils d'une Médicis et même je pensais en moi-même que le venin des Médicis pouvait être venu en moi de me donner de telles pensées. »
Son père allait l'accabler de tendresse, après s'être laissé dire, sans protester, que mademoiselle préparait un guet-apens pour poignarder l'un de ces gentilshommes. Pour leur temps et pour leur famille, c'était simplement une situation un peu gênante. Mademoiselle, si peu Médicis, fit la route en proie à une douleur poignante que les assistants purent lire sur son visage à son entrée dans le château de Blois.
En y arrivant, je sentis un grand saisissement. J'allai droit dans la chambre de monsieur. Il me salua et me dit qu'il était bien aise de me voir. Je lui répondis que j'étais ravi d'avoir cet honneur. Il était embarrassé au dernier point.
Ni l'un ni l'autre ne savait plus que dire. Mademoiselle renfonçait silencieusement ses larmes. Monsieur, pour se donner une contenance, caressait les levrettes de sa fille. La reine et madame sourit. Il reprit enfin
« Allons chez madame. » Elle me reçut fort civilement et me fit assez d'amitié. Dès que je fus à ma chambre, monsieur m'y vint voir et m'entretint tout comme si rien ne s'était passé.
Un quart d'heure lui avait suffi pour recouvrer sa liberté d'esprit et il se mit en devoir de reconquérir sa fille. Elle n'avait jamais su lui tenir rigueur. Monsieur comptait qu'il en serait de même cette fois. Il fut empressé. Il la prit par ses faibles, petits et grands, l'amusa avec des projets de mariage et traita ses levrettes en personnages importants. On le vit se rendre à minuit dans la basse-cour, parmi le fumier, pour prendre des nouvelles de Madame Souris, qui avait eu un accident. Il fit mieux encore. Il écrivit à Mazarin pour le raccommoder avec mademoiselle. Depuis la rupture avec Condé, il était visible à des signes qui ne trompent point que l'heure du pardon approchait pour l'héroïne d'Orléans et de la porte Saint-Antoine. Au mois de juillet 1656, mademoiselle avait dû se rendre aux eaux de Forges, en Normandie. Elle était passée en vue de Paris, avait séjourné dans la banlieue sans être inquiétée, et son nom, cette fois, n'avait pas
fait tout le monde malade.
Les visites avaient afflué. Mademoiselle avait eu à dîner tout ce qu'il y avait de princesse et de duchesse à Paris. Et elle en avait conclu, connaissant les cours et le courtisan, que son exil tirait à sa fin.
« En vérité,
dit-elle,
je ne sentais pas tant de joie que l'on eût cru. Quand on sort d'une misère égale à la mienne, le souvenir endure si longtemps et la douleur se fait un si fort calus contre la joie que l'on est content sans qu'elle puisse ou pénétrer ou amollir pour s'y rendre sensible.
Malgré tout, la lettre de son père à Mazarin l'a mis dans une grande agitation. La cour de France était alors dans l'Est, où Turenne faisait sa campagne annuelle contre Monsieur le Prince et les Espagnols. Mademoiselle résolut de s'approcher pour avoir la réponse du cardinal plus tôt. Elle quittait Blois en étrangère, comme elle y était arrivée. Une seule chose aurait pu la toucher, le rappel de Préfontaine et un de ses autres serviteurs frappé pour l'avoir fidèlement servi. Monsieur, s'y étant obstinément refusé, ses politesses exagérées et ses grimaces de tendresse n'avaient abouti qu'à éloigner davantage sa fille. Elle sentait qu'il la détestait et elle ne l'aimait plus. Sur la route de Paris, elle doubla les étapes. L'impatience la gagnait en approchant du but et le calus de la douleur laissait pénétrer largement la joie. Elle revint en passant Étampes et ses ruines qui dataient déjà de 5 ans et que la fontaine devait retrouver intactes en 1663. Tant le relèvement de la France fut long et difficile dans certaines régions, après cette fronde que les historiens ne prennent pas toujours au sérieux, sans doute parce qu'ils y voient trop de belles dames.
Nous regardâmes avec pitié les faubourgs d'Étampes, écrivait La Fontaine. Imaginez-vous une suite de maisons sans toit, sans fenêtre, percées de tous les côtés, il n'y a rien de plus laid et de plus hideux.
Il en parla toute la soirée, n'ayant pas une âme d'héroïne de la fronde. Mais mademoiselle avait traversé avec indifférence ces ruines où poussait l'herbe, faute d'habitants pour les relever. Aucun remords, aucun regret, si léger fut-il d'avoir eu sa part de responsabilité dans les désastres de populations innocentes, ne devant jamais effleurer son esprit. Et il est à remarquer qu'elle était connue pour avoir bon cœur. Elle apprit à Saint-Cloud qu'on l'invitait à rejoindre la cour à Sedan. Mademoiselle prit son chemin par Reims. Elle traversa ainsi la Champagne qui était champ de bataille depuis plus de 20 ans, que durait la guerre avec l'Espagne et qui offrait l'image de la désolation. Le pays était dépeuplé. Nombre de villages brûlés, les villes ruinées par le pillage et les contributions de guerre. Plus curieuse des choses qui intéressent la canaille, mademoiselle aurait entendu de la bouche des survivants que de tous les ennemis qui avaient piétiné et pressuré cette malheureuse province, le plus âpre et le plus barbare avait été son allié, le prince de Condé, avec qui se trouvaient toujours ses compagnies. Elle n'en aurait pas moins écrit dans ses mémoires, en toute inconscience, à propos de la peine qu'avait eue la cour à lui pardonner.
« Je n'avais point d'affaire avec la cour, et je n'étais criminelle que parce que j'étais fille de son Altesse royale. »
Nous n'avons presque pas le droit de lui reprocher cette phrase monstrueuse. Trahir sa patrie, c'était alors chose trop fréquente pour en faire beaucoup d'embarras. Quant aux hommes de ce temps qui en vinrent jusqu'à s'occuper du menu peuple et à attacher quelque importance à ses souffrances, c'était des esprits révolutionnaires ou des disciples de Saint-Vincent de Paul. Et mademoiselle n'était pas pour les parties extrêmes, ni sa naissance, ni la tournure, un peu superficielle, de son esprit ne l'y avait prédestinée. Pendant le voyage en Champagne, elle fut toute à la joie d'entendre de nouveau cliqueter les armes et sonner les trompettes. Mazarin lui avait envoyé une grosse escorte. Les coureurs de l'ennemi battaient la campagne jusqu'aux environs de Reims. Quantité de gens de la cour qui guettaient une occasion se joignirent à elle pour profiter de ses gendarmes et de ses chevaux légers. Colbert se mit également sous sa protection avec des charrettes chargées d'argent qu'il menait à Sedan. Et cet important convoi fut entouré du même appareil militaire que si c'eût été la personne du roi. Les grandes précautions s'adressaient peut-être aux charrettes d'argent. Les honneurs étaient bien pour mademoiselle et eurent de quoi flatter sa vanité. Le commandant de l'escorte lui demandait l'ordre. Quand elle paraissait, les troupes la saluaient militairement. Un régiment que l'on rencontra sur la route sollicita l'honneur de lui être présenté. Elle l'examina de près, en princesse guerrière que s'y connaissait et dont le grand Gondé avait dit un jour à propos d'un mouvement de troupes que
Gustave Adolphe n'aurait pas mieux fait.
Certaines haltes sur l'herbe, dans une prairie où passait un ruisseau, lui laissa d'inoubliables souvenirs. Mademoiselle offrait à dîner ce jour-là à toute escorte et presque tout le convoi. Le coup d'œil de la prairie, avec son fourmillement d'uniformes et de chevaux, lui rappela les campagnes de son beau temps d'héroïne.
Les trompettes sonnèrent pendant mon dîner. Cela avait tout à fait l'air d'une vraie marche d'armée.
Elle arriva à Sedan, grisée par les spectacles militaires de la route, et son entrée, son ressenti, on aurait eu le droit de ne pas la trouver assez modeste pour une exilée de la veille. La reine Anne d'Autriche, étant à se promener, vit paraître un carrosse au grand galop et entouré d'un tourbillon de cavalerie.
J'arrivais dans cette prairie à toute bride, avec ses gendarmes et ses chevaux légers, leurs trompettes sonnant d'une manière assez triomphante.
Toute la cour de France reconnut la grande mademoiselle avant de l'avoir vue. L'exil ne l'avait pas changée et son entrée lui ressemblait.